France Culture.
Bienvenue dans cette nouvelle émission « Divers aspects de la pensée contemporaine ». Aujourd'hui, la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Une émission préparée par Hervé Laurent et Anamis. Nous recevons ce matin Maurice Leduc, grand maître national de la Fédération française du droit humain. Bonjour cher Maurice.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de France Culture.
Alors Maurice Leduc, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, je me permettrai de vous présenter. Vous êtes originaire du Nord, psychologue clinicien de formation. Vous avez dirigé différents établissements médico-sociaux spécialisés et des associations dans l'aide sociale à l'enfance et le handicap. Vous avez été élu grand maître national de la Fédération française du droit humain lors du convent 2025.
Oui, c'est cela, Anne.
Pour cette émission, un format un peu particulier, puisque vous avez souhaité, Maurice Leduc, donner la parole à des membres de la Fédération française du droit humain pour vous poser leurs questions. Je laisse donc tout de suite la parole à Hervé de Senon, près de Bordeaux.
Bonjour Maurice, Hervé de Senon. Je souhaiterais te demander ce que tu dirais à une personne qui ne connaît pas la franc-maçonnerie et qui souhaiterait en savoir un peu plus.
Bonjour Hervé. Pour répondre le plus simplement à sa curiosité, je dirais à cette personne que la franc-maçonnerie est une vieille institution qui est née il y a plus de 300 ans en Angleterre, au début du XVIIIe siècle. C'est une société philosophique et philanthropique qui s'est développée au fil des années en se diversifiant. C'est un ensemble d'hommes et de femmes qui se retrouvent autour d'un même idéal, d'une même utopie, celle de construire un monde meilleur. Les francs-maçons, Hervé, ont la volonté de donner du sens à leur vie, de s'engager dans une démarche personnelle de perfectionnement, en espérant ensuite le transmettre autour d'eux. Pour réaliser ce travail, la franc-maçonnerie offre une méthode qui s'appuie sur quatre piliers. Le symbolisme, l'initiation, le rituel et la tradition. Le premier pilier, c'est le symbolisme. C'est celui des maçons bâtisseurs de cathédrales, celui des tailleurs de pierres. Sans rien dévoiler, je dirais que nous sommes symboliquement des pierres brutes, que nous sommes invités à la tailler pour en faire une pierre cubique permettant de construire notre temple intérieur. Et puis, participer à la construction du temple de l'humanité en apportant chacun notre pierre. L'initiation, je te disais, c'est le second pilier de cette méthode. C'est ce qui permet la rupture avec un état antérieur. La démarche initiatique est progressive. D'étape en étape, cette démarche aide chacun d'entre nous à s'interroger sur lui-même, à questionner, à comprendre le sens de l'existence. Je dirais, tu vois que c'est une aventure intime à la fois de l'esprit et du cœur.
Alors le troisième pilier, si j'ai bien suivi Maurice, c'est le rituel.
C'est ça Anne. Et le rituel, c'est la manière dont se déroulent nos travaux, toujours de la même manière. Du début à la fin de nos réunions.
Les réunions qu'on appelle les tenues.
Oui, nous avons un récit, un cérémonial identique, une sorte de mise en scène, avec une même gestuelle. Le rituel, c'est à la fois rassurant, mais c'est aussi très structurant. Et puis, il y a la tradition. Alors elle nous rattache aux origines. Elle n'est pas synonyme de rigidité, elle évolue avec le temps.
Et la tradition, en même temps, c'est ce qui nous permet de rester fidèles à ce qui a fondé la franc-maçonnerie.
Oui, en effet. Je dirais à cette personne l'importance du collectif, du rôle que joue le groupe des frères et sœurs dans ce parcours avec un regard bienveillant. Ce que je constate, c'est que souvent les personnes qui veulent nous rejoindre expriment le besoin de nouveaux horizons de pensée et de ne plus être seules dans leurs réflexions. Mmh. Et en cela, la franc-maçonnerie du droit humain peut répondre à leurs attentes. Alors j'espère, Hervé, qu'une fois qu'elle aura entendu tout cela, cette personne dont tu parles aura envie de poursuivre et de rejoindre le droit humain.
Vous avez parlé de la diversité de l'offre maçonnique, Maurice Leduc, et je crois que la question de Marie va vous permettre de préciser un peu les choses.
Bonjour Maurice, c'est Marie de Nancy. Voici la question que j'aimerais te poser. La Fédération française, dont tu présides le Conseil national, fait partie de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Que dirais-tu des spécificités de notre ordre et des différences avec les autres obédiences maçonniques ?
Bonjour Marie, merci pour ta question. En France, la franc-maçonnerie se décline, je dirais, avec un S. Il y a la franc-maçonnerie monogenre, des hommes qui travaillent avec des hommes, des femmes qui travaillent avec des femmes. Et puis, il y a la franc-maçonnerie mixte, dont le droit humain fait partie notamment. Parce que le droit humain a deux spécificités. D'abord, sa mixité d'origine, tout d'abord. Il faut se rappeler qu'à la fin du XIXe siècle, quand le droit humain a été créé, la franc-maçonnerie était, si on fait abstraction des loges d'adoption, une franc-maçonnerie exclusivement masculine. Et il a fallu une sacrée transgression pour décider d'initier des femmes. Vois-tu, Marie, à cette époque, il fallait du courage simplement pour oser affirmer haut et fort l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est l'article premier de notre Constitution. Et puis, il y a une autre spécificité. C'est que Georges Martin et Maria de Rheims, les fondateurs du droit humain, voulaient non seulement que cela se fasse en France, mais aussi sur toute la Terre. Voilà pourquoi notre ordre est également international depuis son origine. C'est très universaliste. Alors, si je reviens sur le paysage maçonnique français, en plus de la mixité ou de la non-mixité, il y a une autre différence importante qui concerne de la manière dont on travaille dans nos loges. Il y a une franc-maçonnerie que j'appellerais très symbolique, qui est uniquement en recherche spirituelle, et une autre beaucoup plus sociétale, qui se revendique même comme étant un corps intermédiaire pour certains. Alors je dirais que pour ce qui concerne le droit humain, eh bien nous aussi, nous sommes dans une forme d'équilibre, de juste milieu. Nous travaillons sur ces deux thématiques, symboliques et sociétales. Nous réfléchissons à des questions qui concernent nous-mêmes, mais aussi qui concernent notre société, son évolution, au regard de nos valeurs, de nos principes, sans parler directement de politique ou de religion, par exemple. Voilà, Marie, j'espère avoir répondu à ta question.
Tout à fait, Maurice Leduc. Merci pour cette précision qui intéressera les auditeurs de France Culture, j'en suis sûre. On écoute maintenant la question de Michel.
Bonjour, Maurice Leduc. Michel d'Andaille. La tradition a une place importante dans notre pratique maçonnique et en même temps, les frères et sœurs du droit humain travaillent au progrès de l'humanité. Comment concilier ces deux notions, à ton avis ? Merci pour ta réponse.
Mais moi, je te remercie pour ta question, Michel. Mais je pense qu'il n'y a pas à les concilier. Je pense que ces deux notions cohabitent déjà. La première, c'est la tradition qui relève du comment, quand l'autre, le progrès de l'humanité, pour moi, relève du pourquoi. Alors je m'explique, Michel. La tradition est un des quatre piliers de notre méthode maçonnique, je l'ai dit tout à l'heure. Elle nous indique comment travailler en franc-maçonnerie. Le progrès, quant à lui, est avec le perfectionnement l'une des finalités de ces mêmes travaux. C'est le pourquoi on travaille en franc-maçonnerie. On travaille à notre perfectionnement, au service du progrès de l'humanité. J'ai envie de dire, Michel, la boucle est bouclée. Il n'y a pas lieu de chercher à les concilier. La tradition et le progrès de l'humanité font tous deux partie intégrante de notre démarche, chacun à sa place.
Merci Maurice Leduc. On poursuit avec une question de Sabine.
Bonjour Maurice, Sabine de Bordeaux. La mixité homme-femme est dans l'ADN de notre obédience. Elle nous fait vivre la richesse de l'altérité en égalité de genre. Dirais-tu que d'autres formes de mixité, au pluriel, existent au droit humain ? Merci de ta réponse.
Je pense, Sabine, que tu veux parler de mixité sociale, générationnelle ou autre, je suppose. C'est un sujet important et je te remercie de m'avoir posé cette question. D'abord parce qu'il ne faut pas, à mon sens, développer l'entre-soi dans nos loges. C'est un vrai risque qui est lié, je pense, à ce qu'on appelle la cooptation. On a tendance, avec la cooptation, à proposer à des personnes de notre entourage familial, professionnel, associatif, de nous rejoindre. Mais ce sont des personnes qui nous ressemblent, donc. Or, il faut tenter de nous ouvrir davantage. En sachant que la franc-maçonnerie au droit humain n'est pas une pratique élitiste et que chacun peut y trouver sa place. Alors, vois-tu, il est vrai toutefois que toutes les catégories sociales ne sont pas représentées de façon équilibrée, et c'est dommage. Et c'est donc un sujet à travailler pour nous. J'ajouterais que les difficultés économiques et du monde du travail de notre société mettent en vulnérabilité financière des frères et des sœurs. Et il faut reconnaître que la franc-maçonnerie a un coût, mais comme toute association. C'est aussi un des freins à ce que des profanes nous rejoignent. Ces dépenses apparaissent parfois trop importantes dans un budget familial. Alors nous avons conscience de cette problématique. Nous avons la volonté d'y apporter des réponses, mais cela s'avère, je t'avoue, très complexe. Pour ce qui est de la mixité générationnelle, elle existe. Mais il nous faudrait rajeunir nos effectifs et faire venir plus de jeunes parmi nous. Parce que les jeunes proposent d'autres points de vue. Alors ils nous bousculent parfois, nous les vieux, mais c'est vrai. C'est un élan vital qu'il faut encourager et surtout écouter pour ceux qui sont déjà parmi nous. J'ai échangé dernièrement avec un groupe de jeunes apprentis et compagnons qui sont venus à Paris. Ils avaient tellement de choses à dire, et ce sont eux l'avenir de notre fédération. Il me semble important de pouvoir entendre leurs réflexions, leurs doutes et leurs attentes. J'y suis très attaché. Ils questionnent nos pratiques, mais surtout ils proposent des solutions nouvelles au regard de leur conception de la vie. Et il faut savoir les prendre en compte.
Bonjour Maurice, c'est Sophie de Rochefort. En franc-maçonnerie, on recherche une nouvelle forme de spiritualité. Comment la définirais-tu ?
Bonjour Sophie, à ta question, j'ignore honnêtement si c'est une nouvelle forme de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. C'est une partie de notre vie intérieure, celle qui est confrontée à l'infini, à l'absolu, à l'éternité en quelque sorte. C'est la quête de sens quand je m'interroge quant à l'aspect éphémère de ma vie. La spiritualité qui est proposée par la franc-maçonnerie au droit humain me convient à titre personnel. C'est une forme de spiritualité libre, adogmatique. Ce n'est pas une spiritualité d'une foi en Dieu, c'est pour moi une spiritualité de la foi en l'homme, en harmonie avec la nature. Une spiritualité qui cherche l'unité.
Merci Maurice pour cette réponse à Sophie qu'on connaît bien, je crois. Une autre question, Maurice Leduc, avec Martine.
Bonjour cher Maurice, je suis Martine et je te pose ma question depuis Rouen. Quels sont les enjeux majeurs de la Fédération française pour les années à venir ?
J'en ai parlé un peu déjà avec le fait qu'il faudrait que davantage de jeunes nous rejoignent, ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je suis persuadé que notre méthode peut répondre et correspondre à des jeunes, aujourd'hui, comme elle l'a fait hier. Dans ce monde qui se déconstruit, nombreux sont celles et ceux qui sont en quête de sens. Et alors la franc-maçonnerie, vois-tu, peut être une voie nouvelle pour certains. Elle a son rôle à jouer pour communiquer davantage, nous devons communiquer davantage. Mais c'est aussi à chaque frère et à chaque sœur de prendre son bâton de maçon pour aller vers ceux dont il pense qu'il pourrait nous rejoindre afin de profiter de notre méthode. Ensuite, il faut également promouvoir nos valeurs dans le monde profane. Mais il faut être attentif, il faut rester humble sous l'influence et la portée de nos actions et de notre parole dans la société en tant que franc-maçon. En France, toute obédience confondue, nous sommes, et je dirais, nous ne sommes que 170 000 francs-maçons. Mais toutefois, je pense qu'en se transformant, en se questionnant, on ne peut que devenir meilleur, et c'est en cela qu'on peut ensuite influer sur la société. Et puis enfin, mais là je parle vraiment de ma place de président du Conseil national, je voudrais donner plus de place à la parole des loges. Cela a été l'un des buts de notre dernière réforme. En étant plus à leur écoute. Notre richesse, ce sont nos membres, ce sont les frères et les sœurs, ceux qui me posent des questions aujourd'hui. Il y a tant d'idées qu'il faut les partager davantage pour que collectivement, nous puissions nous appuyer dessus pour avancer. En tout cas, je travaille en ce sens avec les conseillers nationaux et vraiment cela me semble important de partager cette richesse de notre fédération avec tous.
Nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Nous allons écouter une dernière question, celle de Daniel, ainsi que votre réponse, Maurice Leduc.
Bonjour, c'est Daniel de Rennes. Y a-t-il, Maurice, des questions sociétales qui te tiennent plus à cœur pour la fédération ?
Bien bonjour, Daniel. Si je te dis que la question de l'égalité homme-femme, qui n'est toujours pas réglée en 2025, nous préoccupe toujours autant, cela ne te surprendra pas. Surtout que nous assistons à la montée de certains courants de pensée comme le masculinisme. Mais je voudrais insister principalement aujourd'hui sur les textes de loi relatifs à la fin de vie. Notre fédération a recueilli les différents avis des sœurs et des frères. Elle en a fait une synthèse, l'a présentée aux parlementaires. Les deux textes sont aujourd'hui toujours en attente au Sénat. J'habite près de la frontière belge et je sais que de nombreux Français la franchissent pour mettre un terme à leur souffrance, faute de pouvoir le faire en France. Il en est de même en Suisse. Il est temps, me semble-t-il, que nos élus ou le président de la République fassent en sorte qu'une décision officielle soit prise sur ce sujet, par respect pour certains de nos concitoyens. Et si vous me le permettez, Anne, puisque nous arrivons à la fin de l'entretien, j'en profite pour inviter celles et ceux qui le souhaitent à participer à la conférence publique organisée le 6 décembre, c'est-à-dire samedi prochain, au sein d'un temple de la Maison Maria de Rheims, ouvert à tous pour l'occasion, 9 rue Pinel, à Paris. Cette conférence s'intitule « Laïcité, j'écris ton nom », puisque nous fêtons les 120 ans de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Vous pourrez échanger avec Jérôme Gage, député de l'Essonne, Martine Cerf, vice-présidente d'Égal, et le dessinateur Xavier Gorce, vous savez, celui qui dessine les indégivrables.
Les manchots.
Oui, c'est ça. Et il illustrera en direct les débats et dédicacera ses dessins à la fin de la conférence.
Je précise, Maurice, que nos auditeurs peuvent retrouver toutes les informations sur cette conférence en allant sur notre site droithumain-france.org. Vous avez donc pu entendre aujourd'hui Maurice Leduc, grand maître national, qui répondait aux questions de frères et sœurs de la Fédération française du droit humain. Nous les remercions.
Encore merci pour cette invitation, Anne, et c'était un plaisir de leur répondre.
Aujourd'hui, à la technique, Éric Perruchot-Triboulet, à la réalisation, Philippe Baudouin, avec la collaboration de Claire Poinsignon. Merci à eux. Cette émission était présentée par Anamis. Merci pour votre écoute et bon dimanche à toutes et tous.